donc on retrouve tout de suite Clémence. Donc Clémence, bonjour.
Bonjour.
Alors Clémence, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors je vais vous parler des tiques, je vais vous parler de Louis Pasteur et je vais vous parler de Solar Impulse.
Eh bien on t'écoute religieusement.
Alors, commençons dans le progrès aujourd'hui. Une page entière est consacrée aux tiques. Alors, malgré leur toute petite taille, les tiques sont à l'origine de la maladie de Lyme, qui se traduit par des paralysies, une sciatique, des infections. Or, ces premiers symptômes peuvent se déclarer des mois après la première piqûre. Et le problème avec la maladie de Lyme, c'est que les tests pour la détecter sont très peu sûrs. Dénonçant un scandale sanitaire, les médecins ont interpellé la ministre de la Santé sur cet enjeu de santé publique. Donc attention aux tiques qui grouillent dans les espaces marécageux, mais également dans certains champs. Donc attention aux tiques. Dans Les Échos, un article est dédié à Solar Impulse qui aborde aujourd'hui la dernière étape de son tour du monde. Solar Impulse, c'est cet avion qui fonctionne à l'énergie solaire et qui a débuté son tour du monde en mars 2015 en partant d'Abu Dhabi. Le défi de ses concepteurs, mettre en avant l'utilisation des technologies propres dans le transport aérien. L'aviateur Bertrand Piccard, à l'origine de ce projet tout à fait extraordinaire, célèbre un exploit aéronautique formidable et espère que le succès de cette expérience marquera le début d'un nouveau cycle. Donc peut-être d'ici quelques années, on vous proposera des vols moyens courriers à bord d'avions électriques qui ne fonctionnent qu'à l'énergie solaire. Alors les quotidiens régionaux, l'Est Républicain, le Midi Libre, mais également l'Observateur, l'hebdomadaire, nous proposent aujourd'hui une analyse, nous dévoilent les résultats de l'enquête du CIO qui finalement n'imposera pas de suspension au Comité National Olympique Russe et laissera donc les athlètes russes concourir aux JO de Rio. Ce seront aux fédérations internationales d'estimer au cas par cas eh bien, si les athlètes russes ont leur place ou non dans la compétition. Donc c'est avec une pointe d'amertume et d'incompréhension que les quotidiens régionaux nous révèlent également que l'athlète Stepanova, qui avait lancé l'alerte sur le scandale de dopage, sera quant à elle visée d'une mesure d'exclusion et donc frappée ainsi d'une double peine. La Croix consacre enfin un article sur Funai Electrics, le dernier producteur de magnétoscopes au monde. Or, le japonais Funai Electrics vient d'annoncer que d'ici à la fin juillet, il mettra fin à la production de magnétoscopes. C'est également l'occasion pour le quotidien de revenir sur le parcours semé d'embûches de ce produit qui devint l'enjeu d'une résistance à l'invasion du marché français par les importations japonaises dans les années 1980. Enfin, puisque vous avez certainement tous eu l'occasion de vous faire vacciner un jour dans votre vie, eh bien le Progrès consacre une page, sa rubrique spéciale été, au scientifique Louis Pasteur. C'est aussi l'occasion pour moi de vous conseiller un ouvrage d'Éric Orsenna, La vie, la mort, la vie, une courte biographie de Pasteur et qui nous permet, qui rappelle qu'on lui doit notamment le vaccin contre la rage, le procédé de fermentation, mais également les techniques de pasteurisation et d'asepsie. Donc c'est ainsi que l'on redécouvre l'apport formidable de ce scientifique extraordinaire, des apports dans le domaine de la médecine, de la vaccination et de l'élimination des bactéries. Et enfin, pour tous les amateurs d'Autant en emporte le vent, eh bien La Croix consacre un article à Margaret Mitchell, auteure du célèbre roman Autant en emporte le vent. Ainsi, vous découvrirez que c'est à l'occasion de sa convalescence, alors qu'elle était clouée au lit, qu'elle a débuté l'écriture de ce roman si célèbre et si touchant, qui a fait pleurer bien des ménages. Et ainsi, vous redécouvrirez la biographie complète de cet auteur, ainsi que la réception de son ouvrage. Et je souhaitais vous faire découvrir également, pour conclure cette revue de presse, le hors-série du mensuel Cosette qui est consacré cet été aux faits divers. Alors les faits divers nous fascinent, attrait pour l'horreur, horreur pour l'attrait que suscitent chez nous les meurtres, les disparitions, les enlèvements et autres événements dramatiques. Ils nous dérangent mais nous obsèdent, nous choquent mais nous attirent. En effet, quelle n'est pas notre frustration lorsque le quotidien du jour ne comporte pas sa part de faits divers tissants. car les faits divers sont avant tout des histoires, et nous aimons les histoires. Il remplacerait, selon l'historienne Mara Goyer, les contes des veillées d'autrefois. On se rassure ainsi sur notre propre sort en entendant ou en lisant les misères d'une famille, les accrochages d'un couple, les malheurs d'une fratrie. Et puis on aime échanger nos points de vue, débattre sur la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mettre en doute les conclusions de l'enquête, bref, utiliser cet événement pour tisser des liens avec notre entourage. Alors, comme nous l'y invite l'équipe de Cosette, cessons de culpabiliser d'être tentés par le dernier numéro du magazine Détective et plongeons-nous dans l'univers terrifiant et séduisant du fait divers criminel. On apprend ainsi dans le hors-série que l'engouement pour les faits divers est ancien. Le Petit Journal, paru de 1863 à 1944, a fondé son succès sur la révélation de faits divers dramatiques dont les illustrations angoissantes occupaient la première page du quotidien. À cette époque, désormais lointaine, dont les mœurs nous paraissent bien étrangères, les animaux, auteurs d'homicides, étaient jugés, tandis que leurs maîtres, eux, n'étaient même pas inquiétés. On redécouvrira l'affaire des bébés congelés, que la romancière Astrid Manfredi évoque en donnant la parole à la mère infanticide dans un monologue stupéfiant de froideur et de détachement. Ainsi que l'affaire du japonais cannibale, ou encore les aventures fatales de l'empoisonneuse de la Riviera, Patricia Dagorn, qui fit périr ses amants fortunés après les avoir convaincus de faire d'elle leur héritière. Mais notre fascination ne se limite pas aux crimes commis sur le territoire de l'Hexagone. Le terme serial killer nous vient d'ailleurs tout droit des États-Unis. Et au fil des pages du magazine, on découvre les grandes affaires criminelles qui ont bouleversé la Turquie, l'URSS et les États-Unis. Cynique, la rédaction du magazine vous propose également un mode d'emploi pour écrire un message de corbeau à l'aide de lettres découpées dans du papier journal. Et enfin, pour les plus courageux, ils pourront se livrer au jeu de questions-réponses afin de déterminer s'ils ont le profil d'un serial killer. Quant aux moins courageux, ils pourront se contenter du quiz qui mesure leur flair d'enquêteur.
Bien voilà pour cette première revue de presse. Clémence, c'est Clémence qui déjà demain... On peut vous dire un petit peu, il y aura un sujet sur le Camino, hein, Clémence, puisque tu vas te rendre au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est gratuit, de 14h à 18h, et le Camino, ça tombe bien, puisque c'est la Saint-Jacques aujourd'hui, et que ça parle de Saint-Jacques de Compostelle, et qu'il y a une exposition et une scénographie qui vous emmène, en fait, du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Tu vas nous parler de tout ça demain.
Demain, avec une petite biographie, on reviendra aussi sur l'histoire de Saint-Jacques. Qui était Saint-Jacques? Pourquoi Saint-Jacques de Compostelle?
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Clémence. Et puis, bravo pour ta première rubrique. On a l'impression que tu as fait ça toute ta vie.
Merci à vous. À demain.